La première. Podcast.
Les savants en ont étudié le comportement.
La première.
C'est ici un des temples de la science future.
16h-17h, le dimanche.
La science est vulgarisée par de nouvelles méthodes.
Par A plus B.
Avec Benjamin Leupart.
Vous avez vu ça?
C'est stupéfiant.
Ah, quel plaisir de se retrouver comme chaque dimanche sur la première pour mettre vos sciences en ébullition. La formule de Paraplus B, c'est A, un expert, et B, un junior, à qui tout est permis pourvu qu'on comprenne ce qu'il cherche et surtout ce qu'il trouve. Paraplus B est un studio labo, puisqu'on y réalise des expériences en direct. On passe en revue les mots justes et puis on fait l'état des connaissances sur la discipline au niveau mondial. C'est la séquence par ailleurs. Paraplus B, c'est spécialement dédié à la concision et à la vulgarisation, puisqu'on a un junior champion de vulgarisation et son mentor qui n'est autre que le lauréat du concours Ma thèse en 180 secondes organisé à Liège cette semaine. Il fait chanter les mathématiques. Avec lui, les maths ne sonnent pas pareil. On découvrira, expérience à l'appui, que les maths sont partout, qu'elles sont à la fois le langage et la clé. Saviez-vous par exemple qu'on utilise le théorème Perron et Frobenius plusieurs fois par jour lorsqu'on surfe sur Google? Allez, on en fait la démonstration par A plus B.
A plus B.
Sur la première.
Qui est à l'appareil?
Terry Robson. Pardon de vous appeler si tôt.
Non, professeur, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a?
Eh bien, nous avons fait une découverte extraordinaire. Oui, extraordinaire. Et inquiétante, à vrai dire. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord?
Oui.
Eh bien, je crois que c'est ce qui se passe.
Mon modèle est la reproduction d'un changement climatique à la préhistoire. C'est pas un modèle météo.
C'est ce que nous avons de plus proche. Et est-ce qu'on est en mesure de prévoir les trajectoires?
Oui. Nos prévisions sur 6 à 8 semaines étaient loin de la réalité.
Que fait-on pour la population au nord?
J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard.
The Day After, film catastrophe de 2004 réalisé par Roland Emmerich. Les éléments climatiques se déchaînent et provoquent des catastrophes naturelles. Et comme dans toute bonne fiction made in USA, il y a toujours un moment donné où un scientifique arrive avec son laptop et propose un modèle génial. Et bien dans Paraplus B, nous avons deux de ces mathématiciens géniaux qui pourraient avoir plein de solutions à nous proposer. Bonjour professeur Samuel Nicolaï.
Bonjour.
Vous êtes professeur au département de mathématiques de l'ULG et vous êtes un peu un mathématicien différent parce que vous faites de la recherche fondamentale, certes, mais vous êtes fasciné par l'appliqué.
Oui, je pense qu'on peut dire que je suis un mathématicien qui vit à l'interface.
À l'interface.
Voilà, dans le sens où j'aime collaborer avec énormément de scientifiques d'origines différentes.
Vous êtes notre expert de cette semaine. Vous êtes donc professeur au département de mathématiques de l'ULG. Vous dirigez la thèse de notre junior de la semaine, Adrien Deliège. De Liège donc, qui a remporté cette semaine deux prix prestigieux puisqu'il est lauréat du concours Ma thèse en 180 secondes qui, comme son nom l'indique, est un exercice de vulgarisation de haute voltige. Et non seulement c'était l'avis du jury, mais c'était aussi l'avis du public, puisqu'Adrien a aussi reçu le prix du public, autrement dit bravo. On va revenir sur vous, Adrien, quelques instants, le temps de faire connaissance avec votre professeur, professeur Nicolaï. Professeur Nicolaï, vous publiez aussi bien en biologie qu'en physique. Pourquoi une telle multitude de publications dans des domaines aussi différents?
Simplement parce que je pense avoir eu la chance d'être formé sur une théorie mathématique qui peut être appliquée aux sciences. Donc, d'un côté, il y a le développement de cette théorie qui est, lui, purement mathématique. Et puis de l'autre, il y a le côté application qui est très tentant. Et quand on veut appliquer, il faut se frotter aux spécialistes des domaines concernés pour pouvoir voir si les idées qu'on a sont applicables et peuvent apporter une solution à divers problèmes.
Vous avez un peu dépoussiéré le genre mathématique quand vous-même vous étiez en train de travailler sur votre propre thèse. Justement, cette fascination pour l'application et un peu le côté concret, ça passait pas super super bien auprès de vos pairs à l'époque.
Disons que les mentalités ont évolué depuis quelques années, effectivement. Il y a eu une époque où les mathématiciens se voyaient bien enfermés dans leur tour d'ivoire et se complaisaient dans cette situation, même si parfois il est toujours bon de s'enfermer dans cette tour, il est aussi bon de pouvoir regarder à l'extérieur et de voir comment le monde bouge.
Et donc, publication en chimie, en biologie par exemple?
Oui, en chimie, en biologie. C'était notamment le sujet de ma thèse où je me suis attaché à détecter les origines de réplication chez l'être humain.
Et donc vous vous attaquiez à rien de moins que l'ADN, par exemple?
C'est exactement ça, oui. À l'époque, il venait d'être séquencé. Donc on avait des séquences qui sortaient chaque semaine. Donc une quantité de données incroyable qui nous arrivait. Difficile à traiter, et donc on a eu l'idée d'appliquer l'outil ondelette à toutes ces données pour voir ce qui pouvait en sortir.
Alors on va en parler évidemment de cet outil ondelette, vous avez lâché le mot. C'est quoi cet outil ondelette?
Alors...
on est là pour vulgariser. Hein.
Bien sûr. Mais en fait, bon, quand on voit un morceau de musique, on peut dire qu'une partition, c'est une très très belle, une très efficace manière de représenter le morceau de musique. Quand on a un signal quelconque, hein, une fonction, des données mesurées, ben on peut vouloir aussi de la même manière représenter cette fonction ou ces données. Alors, il existe diverses méthodes et la décomposition en ondelettes est une de ces méthodes. Et donc, un coefficient d'ondelette, une valeur associée à une ondelette, on pourrait voir ça comme une note associée à une partition de musique.
Voilà une métaphore qui fonctionne bien. Vous dites qu'en sciences fondamentales, il ne faut jamais demander pourquoi. Et d'ailleurs, parfois, on mène des recherches ou on lance des recherches fondamentales en mathématiques, par exemple, en se basant sur des choses qui sont réputées impossibles. Ça n'empêche pas de réfléchir.
Exactement. Là, le mathématicien peut parfois prendre du recul par rapport à la réalité pour développer des théories qui ne sont en aucune manière connectées au monde réel. Un exemple très célèbre est la géométrie non euclidienne, où on remet en cause le cinquième postulat d'Euclide. Donc, c'est celui qui dit que si on a une droite et un point qui n'appartient pas à cette droite, on peut faire passer une et une seule droite parallèle à la droite et passant par le point. Donc, pendant de nombreuses années, de nombreux siècles, on a essayé de démontrer ce postulat parce qu'il est un petit peu gênant, il est un petit peu différent des autres. Et à un moment donné, on s'est dit, si on n'arrive pas à le démontrer, c'est qu'il est indépendant des autres. Et s'il est indépendant des autres, que se passe-t-il si on le remet en cause et qu'on dit que, par exemple, par une droite et un point, on peut faire passer une infinité de points ou aucune droite. Ça donne donc une géométrie qui est différente, qu'on appelle donc non euclidienne. À l'époque, lorsque Lobachevsky et Riemann, un peu plus tard, ont développé ce genre de concept, on les a pris un petit peu pour des fous, on les a dénigrés, jusqu'à ce qu'on constate que cette géométrie avait un pied bien ancré dans la réalité, avec le développement de la relativité générale qui fait usage de la géométrie riemannienne.
D'accord. Donc, c'est pas parce que c'est impossible que ça empêche la réflexion. C'est même parfois enrichissant de partir de quelque chose qui est réputé impossible.
C'est exactement le point de départ des mathématiciens.
Alors, professeur Nicolaï, on vous fait toutes nos félicitations, hein, puisque cette semaine avait lieu le concours Ma thèse en 180 secondes. C'était la manche de Liège. Ma thèse en 180 secondes fait partie de l'arsenal des nouveaux supports de communication qu'affectionne tout particulièrement l'ULG. Il y a pas mal de buzz autour de ces façons d'expliquer les choses réputées complexes en peu de mots ou en peu de temps. Là, il faut dire que 3 minutes chrono, une seule DIA pour expliquer une thèse qui prend généralement entre 4 et 6 ans dans un domaine aussi compliqué que les mathématiques, c'est quand même très très fort. Adrien, vous êtes le lauréat, un des 5 lauréats de cette manche de Liège. Félicitations.
Merci.
Et félicitations à vous, professeur Nicolaï, puisque 2 de vos poulains ont décroché ce fameux prix, ce pass pour l'étape suivante de ma thèse en 180 secondes. Bonjour Adrien de Liège.
Bonjour.
Alors, vous avez une pression colossale sur les épaules, évidemment, puisqu'on vous a présenté comme un champion de la vulgarisation scientifique. Vous n'êtes pas que scientifique, hein. Vous aimez le tennis, vous aimez passer du bon temps avec vos amis. Votre job d'assistant vous permet de voyager et vous aimez ça. Vous avez 24 ans, vous avez décroché une bourse au FNRS pour réaliser votre thèse, donc, et vous l'expliquez avec brio. Alors, question, c'est quoi votre thèse?
C'est quoi ma thèse? Si je dois la résumer en 3 minutes, il y a eu une vidéo qui va bientôt circuler sur ma thèse en 180 secondes. Sinon, ma thèse consiste notamment à appliquer des nouveaux outils mathématiques, les ondelettes, à des données climatologiques, donc comme des indices climatiques El Niño, Enzo, dont je parle dans cette vidéo, ou des séries de température, ce genre de choses. Et donc
vous appliquez les mathématiques à la climatologie,
c'est ça.
Et ça fonctionne. Eh bien, on n'a pas la vidéo, mais on a le son, nous, évidemment, de votre performance de cette semaine qui vous a valu les ovations du public et aussi cette nomination.
Bonjour à tous. Bien, vous me semblez avoir l'esprit encore vif en cette fin d'après-midi. On va donc commencer par une petite devinette. Écoutez bien. Quel est le point commun entre un ouragan au Japon, un feu de forêt en Australie, une sécheresse en Afrique du Sud et une invasion de moustiques en Californie? Pas évident, n'est-ce pas? En fait, ces redoutables catastrophes naturelles ont généralement une origine commune. Et oui, dans de nombreux cas, ces désastres sont les conséquences, ou encore téléconnexions, d'un autre phénomène appelé El Niño.
On a raccourci, évidemment, hein. On n'a pas les 180 secondes de votre présentation, mais on voit bien à quoi ça ressemblait. On sent un petit peu l'émotion, il faudra peut-être travailler ça dans la voix. Un peu la bouche qui colle un peu, mais en tout cas, le public a été vraiment sous le charme, et tout le monde a compris apparemment ce que vous faisiez. Vous appliquez les ondelettes à la climatologie, pour quoi faire?
Alors, dans l'exposé que j'ai présenté pour ma thèse en 180 secondes, je m'attaque à la disque climatique qui s'appelle El Niño. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça? On peut voir ça comme étant la température de l'océan Pacifique. Et quand cette température est trop élevée ou trop basse, il y a des phénomènes climatiques au niveau mondial qui se produisent, comme ceux que j'ai cités. Et alors, le but, c'est d'essayer de prédire ces événements El Niño à l'avance. Comment? Donc, en essayant de prédire la température de l'océan Pacifique et son évolution. Et grâce aux ondelettes, je peux décomposer, donc, comme M. Nicolai a dit juste avant, je peux décomposer les données en diverses composantes qui permettent, après, en extrapolant ces différentes composantes, de prédire à plusieurs mois, plusieurs années, éventuellement, ce qui va se passer, avec une certaine part d'incertitude, évidemment, mais c'est une méthode qu'on est en train de développer et qui est relativement prometteuse.
Prédire la température de l'océan Pacifique plusieurs années à l'avance?
Plusieurs années, 2 ans, 3 ans, on ne va pas aller trop loin non plus. Mais c'est un phénomène qui comporte des différents modes oscillatoires qui sont plus ou moins connus. Et donc, on peut, grâce à ces oscillations, savoir à peu près comment la température devrait évoluer à l'avenir. Alors, l'outil qu'on développe est efficace sur le long terme parce que les différents modes qu'on arrive à extraire avec les ondelettes sont relativement simples à extrapoler, finalement, comparées aux méthodes qui existent déjà. Les méthodes qui existent déjà se basent notamment sur aussi des pressions atmosphériques, des précipitations, sur d'autres indices climatiques, et sont très performantes sur le très court terme, mais généralement, quand on veut voir un peu plus loin, elles coincent un petit peu. Avec les ondelettes, on a un comportement qui est beaucoup plus global, plus général, et qui permet alors d'entrevoir ce qui va se passer un peu plus loin.
Mais alors, professeur Nicolai, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'approximation si on se contente de moins de facteurs pour influencer un spectromètre, par exemple, ou un spectre de variations de données?
Il y a certainement une perte de précision, mais ce qui nous intéresse, ce sont les phénomènes extrêmes, c'est-à-dire quand la température dépasse un certain niveau pour un certain nombre de mois. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, quand on est au-dessus, voire en dessous, d'une température moyenne pour un certain nombre de mois. Et donc, c'est ça qu'on essaye de prédire. Donc, quand va-t-on avoir un phénomène extrême? Et donc, voilà, si on se trompe de quelques dixièmes de degrés dans un phénomène extrême, le principal est de dire, attention, dans un an et demi, il va y avoir un phénomène El Niño. C'est ça qui est important.
Et on rappelle un peu les phénomènes dont on parle, c'est à la fois des phénomènes climatiques, mais aussi des vols d'insectes ravageurs, des choses comme ça. Donc il y a énormément d'impact de ce El Niño sur la vie de la planète.
Oui, c'est tout à fait ça. Il y a des conséquences, forcément en Amérique du Sud, vu que ça part de l'océan Pacifique, des conséquences en Océanie, en Australie, il y a souvent des sécheresses ou des feux de forêt liés au phénomène. En Asie du Sud-Est, il y a parfois des problèmes de mousson. Ça peut aller jusqu'en Afrique, engendrer certaines sécheresses. Puis alors aux États-Unis, donc des invasions de moustiques et ce genre de choses, puisque les conditions font que l'air est plus chaud ou plus froid dans certaines régions. Les moustiques suivent certaines masses d'air finalement, et alors arrivent un peu plus nombreux en Californie. S'il y a plus de moustiques, il peut y avoir plus d'épidémies du style malaria ou dengue ou ce genre de choses, pareillement en Afrique. Donc voilà, le phénomène El Niño a des impacts planétaires. En Europe, on est un peu plus épargné, parce que c'est vraiment à l'opposé de la planète. Ça a quand même des petites répercussions parce que ça peut se répercuter sur l'océan Atlantique et les courants atmosphériques qui sont à ce niveau-là. Et donc, indirectement, ça peut avoir une influence chez nous. Mais en général, c'est plutôt dans les autres régions.
Professeur ?
Il faut quand même expliquer qu'il y a certaines théories qui font entrer en jeu El Niño pour expliquer comment l'île de Pâques a pu être peuplée. Visiblement, les autochtones au large de l'Australie avaient compris ce phénomène et ont profité d'El Niño et des courants marins qu'il engendre pour pouvoir se déplacer de manière bien plus efficace et de manière bien plus longue. Il y a aussi des théories peut-être un peu plus fantaisistes qui disent que les grandes dynasties ont chuté à cause d'El Niño.
D'accord. Oui, donc effectivement, ça a marqué l'histoire et ça marque le climat aujourd'hui partout sur la planète. Alors, ondelettes, on voit bien l'idée, hein, c'est des petites ondes. Enfin, pourquoi ? D'où vient ce mot ondelette ?
Justement, ondelette pour petite onde. Alors, ça, c'est historique. Avant, pour représenter un signal de la manière des ondelettes, on utilisait ce qu'on appelle une transformée de Fourier.
C'est quelque une chose, quoi ?
Une transformée de Fourier. Désolé du gros mot.
C'est
quelque chose qui est vieux depuis de plus de 200 ans. Qui a été utilisé pour résoudre des équations de chaleur, donc purement appliquées. Ça dit quoi ? On prend une sinusoïde, c'est-à-dire une fréquence pure, mathématiquement, un modèle mathématique, quelque chose qui ne finit jamais. Et le théorème de Fourier dit que dans des conditions vraiment très générales, n'importe quel son peut être décomposé en une infinité de ces fréquences pures. Le problème, c'est que pour un son qui est très très bref, avec des fréquences pures qui ne sont pas localisées, donc qui s'étendent infiniment dans le temps, ils en font énormément, une grande quantité, même pour approximer ce son très bref. Donc le problème, c'est qu'on a un problème de localisation. Donc la transformée de Fourier, sinusoïde, onde.
D'accord, c'est là que ça vient.
Voilà.
On commence à s'approcher, d'accord. Le climat, c'est quelque chose qui vous passionne particulièrement, Adrien, puisque votre thèse porte sur El Niño, alors que vous êtes mathématicien. C'est vraiment une volonté de vous attaquer à cette prédiction climatique ?
À la base, moi j'aime bien toutes les sciences en général. J'aurais pu travailler avec des biologistes ou des physiciens ou ce genre de choses.
C'est peut-être le cas, hein, quand on voit le parcours du professeur Nicolaï. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas.
Quand j'ai commencé mon mémoire en deuxième master, je voulais faire des maths appliquées. Donc vraiment, ça c'est ce qui me passionne vraiment, c'est de faire de la science appliquée, des choses comme ça. Et donc je suis allé voir M. Nicolaï parce que c'était le seul vraiment à l'époque qui permettait de faire ce genre de choses, qui permettait de faire une mémoire comme je le souhaitais. Et à ce moment-là, il travaillait justement avec des climatologues de l'ULG sur des analyses de température et d'El Niño et ce genre de choses. Et donc il m'a naturellement invité dans l'équipe à prendre part à ce genre de travail. Donc c'est surtout pour ça que je travaille dans la climatologie. Ça aurait pu être d'autres sciences, et ça le sera peut-être à l'avenir.
Alors est-ce que vous avez un scoop ? Parce que puisque vous appliquez les mathématiques au phénomène climatique El Niño pour prédire les impacts ou les effets qu'il aura à moyen et à long terme, à 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il y a un scoop ? Il y a des choses qui vont se passer ? Ils disent tous les deux oui de la
oui,
tête,
oui.
Mais alors quoi ?
En 2018-2019, normalement dans ces eaux-là, il devrait avoir un phénomène extrême, relativement important, et donc ce serait bien que les autorités des pays concernés soient au courant et puissent prendre des mesures adéquates assez tôt.
Mais vous avez éveillé notre curiosité, quel est ce phénomène extrême ?
Donc c'est comme on l'a dit, un phénomène El Niño. Normalement, la température de l'océan Pacifique sera d'abord trop froide pendant un bref instant, pendant quelques mois, ça c'est pas encore trop grave. Et puis alors, 2019, quelque chose dans ces eaux-là, elle devrait remonter vraiment en flèche et être beaucoup trop élevée par rapport à la moyenne habituelle. Et donc à ce moment-là, il pourrait avoir des conséquences telles que celles qu'on a décrites précédemment.
Ah d'accord, donc vous n'avez pas encore identifié laquelle de ces conséquences se produira en 2018 ou 2019.
Ça, ce n'est pas tout à fait notre travail. Nous, c'est plutôt vraiment de dire, attention, la température va être trop élevée à ce moment-là. Et alors, il y a plutôt des climatologues alors, et ce genre de scientifiques qui seront plus à même de dire où ça va se passer exactement, comment ça va se passer, etc. Nous, c'est plutôt, attention, alerte, et puis alors, vous prenez le relais.
D'accord, vous prenez le relais. Alerte, est-ce qu'on a une explication sur l'origine de cette montée dramatique de la température de l'eau de l'océan Pacifique ?
El Niño, c'est un phénomène naturel. Donc, il y a toujours eu des oscillations. Ça a toujours été très haut, très bas, neutre, etc. Donc, ça, il n'y a pas. Ce n'est pas dû à l'homme, en tout cas. Ce n'est pas dû au réchauffement climatique ou ce genre de choses. Pas encore.
Ah, voilà. Le professeur Nicolaï n'a pas l'air entièrement d'accord.
Disons qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet. Il y a des, voilà, il y a des recherches qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Il n'y a pas de consensus.
Mm-hmm. Mais El Niño, ça se produit tous les ans.
Non, non, ça ne se produit pas tous les ans. Ça se produit tous les 3 à 7 ans en général, c'est assez difficile de dire.
Peut-être pas tous les ans, mais en tout cas toujours à la même période, d'où le nom El Niño, ça veut dire l'enfant...
C'est l'enfant.
Oui. Donc c'est Noël, quoi, Noël au Pérou.
Oui, à l'origine, le phénomène a d'abord été remarqué au Pérou notamment, et il se produisait souvent aux alentours donc, de Noël. C'est pour ça qu'on l'a appelé El Niño, qui est le courant de l'enfant Jésus. Maintenant, il n'est pas exempté d'avoir des phénomènes El Niño qui se produisent un peu plus tard dans l'année ou un peu plus tôt. Ça, ce n'est pas universel. Ce n'est pas systématiquement au mois de décembre que ça commence. Ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard. Il y a des déphasages. Voilà, ça, c'est,
ça peut être... Dernière question par rapport à ce phénomène naturel, ou en tout cas sur lequel il y a débat, hein, peut-être qu'il y a l'influence de l'homme ou pas, c'est pourquoi cette température remonte? Qu'est-ce qui fait que cette température remonte?
Quels sont les mécanismes vraiment qui sont là derrière? Mm-hmm. Ça, ce sont des mécanismes qui
Ce sont des mouvements de courants marins.
C'est des courants marins. Maintenant, c'est étudié, mais c'est assez peu compris, c'est même mal compris actuellement. On ne sait pas formellement exactement ce qui est là derrière, ce qui se cache là derrière. Donc ce sont des recherches qui sont en cours, évidemment, puisque El Niño, c'est un phénomène très important, mais il n'y a pas encore de nouveau de consensus à ce niveau-là. On ne sait pas encore ce qui alimente El Niño.
Il y a un peu de physique derrière. Le soleil chauffe à un endroit, il ne chauffe pas à l'autre. Il y a ce qu'on appelle des convections des cellules de Walker qui apparaissent. Et c'est ce qui crée le phénomène El Niño. Il y a évolution dans le temps, ça cesse de chauffer, le courant cesse d'agir, l'eau remonte, ben bref.
C'est pour ça que ça prend des périodes assez longues, puisque les quantités d'eau présentes en jeu, ça prend un temps dingue. Je voulais vous demander, vu les ravages qui sont potentiellement possibles par certains de ces effets extrêmes dus à El Niño, que vaut votre parole de scientifique quand vous prédisez, par exemple, qu'en 2018-19, ça risque de se produire ce genre de phénomène extrême? Est-ce qu'on prend ça en compte dans le but, par exemple, d'anticiper des infrastructures, des choses comme ça?
C'est ce que nous aimerions. C'est ce que nous aimerions. C'est le but.
Que pourriez-vous faire pour qu'on prenne ça en compte? Pour, comme dans le film, vous arrivez avec votre modèle en disant « Attention, ça va péter ».
c'est une bonne question. La première étape, c'est d'abord de faire connaître la méthode du public scientifique spécialisé. Mm-hmm. Ensuite, c'est de communiquer par voie usuelle pour le chercheur, je vais dire, c'est-à-dire de faire des congrès, de participer à des congrès, de présenter la méthode de manière la plus large possible. Et ensuite, si la méthode est efficace, je pense qu'elle s'imposera par elle-même. Pour l'instant, c'est la seule méthode qui permet de prédire des phénomènes jusqu'à 3 ans. Donc les méthodes existantes, elles sont plus efficaces jusqu'à 1 an, mais à partir d'un an, ça tombe à plat. Donc étant donné que c'est la seule méthode qui est aussi efficace pour un laps de temps aussi long, si les prédictions s'avèrent bonnes, je pense que naturellement, le modèle sera pris en compte.
Donc il va falloir publier, Adrien.
Oui, bah on a un article qui est soumis actuellement, donc qui est en train d'être reviewé. Donc on attend des nouvelles et on espère que ça passera, évidemment.
C'est ce qu'on vous souhaite. Vous avez eu l'extrême gentillesse, pour nous faire comprendre ce que sont les ondes LED, de nous amener un dispositif qu'on va expérimenter dans quelques instants dans Para plus B. Mais avant de passer à l'expérience, on va essayer de trouver les mots justes.
Benjamin Leupart.
Par A plus B jusqu'à 17h.
Sur la première.
Et nous sommes toujours avec le professeur Samuel Nicolaï de l'ULG, professeur au département de mathématiques, et avec Adrien Deliège pour parler précisément des ondelettes. C'est une clé de lecture de phénomènes complexes qui permet d'anticiper, par exemple, en ce qui concerne votre thèse, Adrien, anticiper le phénomène El Niño. On va essayer de passer en revue quelques-uns de termes génériques ou plutôt spécifiques à votre domaine d'étude pour essayer de s'exprimer le plus clairement possible. Alors, le premier des termes, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais ça signifie quoi en fait mathématiques?
Alors, mathématiques, on dit souvent science mathématique, mais nombreux sont les mathématiciens et les physiciens à affirmer que les mathématiques ne sont pas une science. Pourquoi ? Parce que contrairement à la plupart des autres sciences, les mathématiques ne s'appuient pas sur l'expérience ou l'observation. Donc déjà, c'est la première chose, on n'essaye pas de modéliser le réel, comme avec la géométrie non euclidienne. Ça n'a rien à voir avec le réel. On essaie peut-être même de s'en détacher et de se défaire des préjugés qu'on pourrait en avoir. Donc, ensuite, bon, la vision moderne des mathématiques, et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un ensemble de déductions qui sont basées sur des vérités qu'on tient pour vraies, qu'on appelle axiomes. Et à partir de ces axiomes, donc, on déduit des vérités qu'on appelle théorèmes, une fois prouvé, de manière... Bon, ces déductions se produisent donc avec un raisonnement logique.
Un théorème ne peut pas être démonté, donc ?
Un théorème doit être démontré.
Non, démontré, d'accord, mais démonté. On ne peut pas découvrir qu'en fait un théorème est faux.
Non, si c'est un théorème, il est vrai.
Si, c'est... D'accord, donc il y a de la vérité dans les mathématiques.
Il n'y a que de la vérité dans les mathématiques.
C'est une profession de foi que vous faites, Samuel
Nicolaï. En quelque sorte, c'est un sacerdoce, en tout cas.
D'accord. Un autre terme qu'il est intéressant d'analyser en termes de mathématiques, c'est la notion d'analyse, Adrien.
L'analyse, c'est l'étude de l'infini, en quelque sorte. Alors, la notion d'infini, bon, là, on peut partir dans des considérations un peu plus philosophiques. Je ne vais pas entrer là-dedans. La notion d'infiniment petit, qui entraîne la notion de dérivée, puis la notion d'intégrale, ce genre de choses. Donc l'analyse, c'est vraiment la partie des mathématiques qui va étudier ces domaines-là que certains d'entre vous se rappellent peut-être avoir vu en secondaire.
Mais ce n'est pas toujours des bons souvenirs hein, pour la plupart d'entre
j'imagine
nous.
Bien.
Vous êtes des amoureux des mathématiques parce que vous appliquez ça à plein de domaines fascinants. Mais pour pas mal de gens, c'est traumatisant, la notion de mathématiques. Vous vous rendez compte de ça, professeur Nicolaï ?
Mais ce n'est pas la bonne notion des mathématiques qui est traumatisante.
C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Voilà.
Enfin, qu'on essaye.
Les vraies mathématiques ne sont pas traumatisantes.
Voilà. Puisque ça permet de comprendre.
Ce sont des jeux de l'esprit.
Des tournures d'esprit. C'est comme ça que vous les définissez, ces travaux, ces réflexions mathématiques. On revient à l'infini avec vous, Adrien. Alors quoi, cet infini, ça apporte quoi, cette notion, dans la notion d'analyse ?
C'est difficile de quantifier ce que ça apporte dans la notion d'analyse. Disons que... en analyse, on regarde beaucoup des phénomènes de convergence. On regarde comment une fonction se comporte à l'infini d'un point de vue asymptotique. On regarde
asymptotique, s'il vous plaît.
Pardon.
Non, mais c'est quoi ?
Asymptotique, c'est donc le comportement à l'infini. Est-ce que une fonction donnée a un comportement qu'on peut prédire à l'infini, donc très loin finalement ? Est-ce qu'elle va s'aplatir ? Est-ce qu'elle va monter très haut, comment est-ce qu'elle va se comporter ?
Mais c'est peut-être ça qui fait peur, c'est que la notion d'infini échappe à l'entendement de la plupart des gens, et donc on se dit à quoi bon réfléchir à l'infini, puisqu'on n'ira jamais à l'infini. Grand silence.
L'infini intervient notamment en physique, donc on ne peut pas dire qu'on ne rencontre... On peut dire qu'on ne rencontre jamais l'infini, mais en tout cas, on doit considérer au moins l'infini comme un infini potentiel, c'est-à-dire comme limite d'action qu'on a à faire. On peut se poser la question, je prends une feuille, je la coupe en deux, tac, puis je prends ce qui reste, je la coupe encore le reste en deux, et je recommence indéfiniment. Donc chaque fois, le reste, je le coupe en deux, et je le rajoute. Je fais ça une infinité de fois. Est-ce que je vais avoir une feuille d'une surface infinie ? La réponse est non. Pour pouvoir obtenir un tel raisonnement, il faut quand même réfléchir à des étapes et prolonger ce nombre fini d'étapes jusqu'à un moment où on dit, là, c'est l'infini.
D'accord. Donc, c'est un concept qui permet la réflexion à nouveau. On revient au comportement mathématique du chercheur.
Exactement. C'est un raisonnement asymptotique. Que se passe-t-il si je poussais encore plus loin ? C'est plus loin, l'infini, c'est plus loin que le fini.
Alors, les mathématiques ne sont pas immuables. Il y a eu dernièrement une espèce de révolution dans les mathématiques. C'est la crise des fondements. Donc, on a changé un petit peu les règles de base. C'est ça l'idée ?
C'est qu'on a plutôt instauré des règles de base, je dirais. Donc,
c'est quoi cette crise de fondements ?
Alors, la crise des fondements, très très grossièrement, parce que on veut un peu de résumer ça en quelques mots, mais disons au début du XXe siècle. Est arrivé un mathématicien qu'on appelle Cantor, qui a introduit une théorie qui s'appelle théorie des ensembles. Et il est justement arrivé avec différentes notions d'infini. Et là, ça a tout bouleversé, parce que même pour les mathématiciens de l'époque, cette notion d'infini, l'infini comme processus limite ou l'infini comme entité même, était quelque chose d'incompris. Et là, en raisonnant, on s'est rendu compte que certains, de nombreux concepts même des mathématiques, comme même le concept de fonction, de continuité, étaient eux-mêmes mal définis. On reposait dessus, des sens reposaient sur ces concepts, alors qu'ils n'étaient pas bien définis, qu'on pouvait les mettre en défaut. Donc il a fallu repenser les mathématiques. De même que pour avoir une maison solide, il faut repenser ses bases. Et la question a été, sur quelle base peut-on fonder les mathématiques? Et ce sont justement les axiomes.
Et c'était quand, ça?
Au début du 20e, 1909, je dirais.
C'est très très récent.
C'est très très récent, oui. On ne fait plus les maths aujourd'hui comme on les faisait il y a 100 ans.
D'accord. Dernier terme sur lequel il serait intéressant de revenir quand on parle de mathématiques, et puis ça va résonner dans la mémoire de pas mal de gens qui pensent aussi aux mathématiques aujourd'hui, c'est les ensembles. C'est un élément très important en mathématiques, cette théorie des ensembles.
C'est la base des mathématiques. C'est tellement compliqué que il est impossible. Non, c'est paradoxal. Là aussi, c'est un mot qui a attrait aux mathématiques. C'est-à-dire que c'est la base des mathématiques et en même temps, c'est un objet mathématique qui est tellement compliqué à décrire qu'on ne peut pas commencer par ça.
C'est pour ça qu'on finit notre liste par ça.
Exactement. Mais je ne vais quand même pas le définir aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle on commence par non pas donner la vraie théorie des ensembles, mais donner ce qu'on appelle basiquement la théorie des patates, où on fait des cercles sur le tableau, sans vraiment définir ce que c'est un ensemble, c'est une collection d'éléments. Ensuite, on développe à partir de là des théories rigoureuses, et puis plus tard, lorsqu'on a des notions de logique suffisantes, on peut définir la notion d'ensemble. Et à partir de cette notion d'ensemble, on peut faire un travail qui consiste à découdre tout ce qu'on a fait pour rapidement tout recoudre et dire par exemple que le nombre 0 est un ensemble, c'est l'ensemble vide. Le nombre 1 est un ensemble, c'est l'ensemble qui contient un élément, etc., etc.
D'accord. Moi, j'étais vachement fort en intersection et tout ça en école primaire. Mais ça a l'air beaucoup plus compliqué, vos ensembles, à vous, que les miens. Il est temps de passer à la fameuse expérience sur laquelle vous avez tous les deux gambergé. Et déjà, merci beaucoup pour nous faire comprendre ce que sont les ondelettes. Merci d'avoir défini ces mots complexes ou en tout cas tellement importants. On va passer à l'expérience.
Wavelet transform. Wavelet transform.
Alors, ne réglez pas votre poste, c'était bien l'expérience mathématique qu'on vient de vous faire entendre une première fois. On va vous la faire réentendre un tout petit peu plus tard après vos explications. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Adrien ?
Bon, déjà, une expérience mathématique, c'est pas facile à faire. Donc voilà, désolé pour la bizarrerie de la chose.
Un fameux tour de force, moi. Bravo.
Alors, donc, ce qu'on a d'abord entendu, c'est un homme qui dit les mots wavelet transform. Transformé en ondelette. Et alors après, on entend des sons un peu bizarres, des espèces de bip, là, comme ça. Et bien en fait, une transformation en ondelette, les ondelettes ont été utilisées pour analyser ces deux mots que la personne a dites. Et les sons qu'on entend, ce sont des parties de la transformée en ondelette. Donc, ce sont des parties, des composantes, finalement, qui constituent le son principal. Et alors, la dernière partie qu'on entend, on a l'impression que c'est de nouveau les deux mots que l'homme dit au début, mais en fait, ce sont les mots reconstruits à partir de la transformée en ondelette, reconstruits à partir des informations qu'on a tirées de la décomposition avec les ondelettes. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais à l'oreille, ça a l'air d'être les mêmes.
Ça a franchement l'air d'être une répétition. Donc, ça veut dire, c'est la démonstration qu'en fait, la formulation ou la formule en ondelettes fonctionne, puisqu'on a recompris ce qui a été dit initialement et ensuite décomposé.
Exactement. Et alors, ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est que, imaginez le son de départ, si c'est quelque chose de beaucoup plus gros, que vous voulez l'envoyer en fichier dans une pièce jointe, dans un mail, etc., c'est peut-être un peu trop gros. Par contre, en utilisant la transformée en ondelette, on récupère seulement quelques coefficients, quelques composantes qui correspondent aux bruits bizarres qu'on entend, mais qui sont très légers. Et ça, vous pouvez finalement les envoyer, en quelque sorte, à votre correspondant. Et lui, alors, sachant quelle ondelette vous avez utilisée, peut reconstruire le signal, peut reconstruire donc la troisième partie.
On va réécouter tout à l'heure hein, cette démonstration des ondelettes appliquées à des mots prononcés par un humain. Professeur Nicolaï, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, c'était juste pour pousser un peu plus l'analogie. Donc, le mot « wavelet transforms », on pourrait comparer ça à la musique. Et puis les trois bips qu'on entend, c'est la basse, la batterie, puis la guitare. Et puis de nouveau, c'est les trois qui jouent ensemble.
Vous êtes très fort aussi en vulgarisation. Hein. Vous auriez pu le faire, le mathèse, en 180 secondes. On va réécouter cette expérience mathématique, comme quoi vous faites bien sonner différemment les mathématiques aujourd'hui dans Para plus B.
Wavelet transform. Wavelet transform.
C'est sûr que l'analogie avec la musique marche bien. C'est pas simplement on a découpé les mots et puis on les a recollés ensemble. C'est un peu plus compliqué que ça.
C'est un peu plus compliqué que ça. Mm-hmm. Mais l'analogie avec la musique, c'est universel. Si donc vous entendez parler d'ondelettes, vous aurez automatiquement l'analogie avec la musique. C'est historique. Fourier, fréquence, musique.
Par A plus B.
Benjamin Leupart.
Jusqu'à 17h.
Sur la première.
Et dans Para plus B ce dimanche, on parle mathématiques en compagnie de Samuel Nicolaï, professeur au département de mathématiques de l'ULG, et Adrien Deliège, qui fait une thèse en ce moment à propos de mathématiques et qu'il applique au phénomène climatique El Niño. On va tenter, messieurs, de faire une photographie de l'état de la recherche en mathématiques. De faire une photographie de l'état de la recherche en mathématiques partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est la séquence par ailleurs. Alors, quels sont les grandes questions auxquelles on tente de répondre aujourd'hui, si on peut tenter de résumer?
C'est pratiquement impossible de résumer ça, parce que les mathématiques aujourd'hui, on a du mal à s'en rendre compte, mais... partent vraiment dans tous les sens. Il y a de nombreux domaines.
Ah, vous le dites vous-même alors.
Oui, mais il y a des centaines de ramifications que personne ne soupçonne. On ne les connaît évidemment pas toutes. Plus personne ne saurait connaître toutes les mathématiques qui existent. Ça, c'est plus possible depuis une centaine d'années.
Ah bon ?
C'est vraiment le cas, oui. La dernière personne qu'on considérait comme connaître vraiment toutes les mathématiques de son époque, je pense que c'était Hilbert.
Ou Poincaré, moi j'aurais dit.
Ou Poincaré, c'était au début du XXe siècle.
Donc ça veut dire qu'entre mathématiciens, vous ne vous comprenez pas?
Sur les sujets de recherche, pas vraiment.
T'es dingue.
Bon. Oui, voilà, donc c'est tellement.
C'est peut-être pour ça qu'on ne parvient pas à faire un état de la recherche globale, puisque entre vous, déjà, vous ne vous comprenez pas. Et puis, il y a aussi le côté je tente d'apporter une solution ou une formule, un théorème qui ouvre une porte, et cette porte, généralement, elle débouche sur.
D'autres portes.
Un couloir rempli de portes, on est dans Matrix. D'accord. Néanmoins, il y a quand même des grands axes qui peuvent être identifiés en recherche en mathématiques. Et notamment en cryptologie.
Oui, alors, quelque chose de relativement facile à comprendre et de très important, ça concerne les nombres premiers, simplement. Les nombres premiers se cachent derrière tous les systèmes de sécurité, tous les cryptosystèmes qui existent au monde, pratiquement.
Alors, pour ceux pour qui les nombres premiers sont encore un peu loin dans la mémoire, c'est quoi un nombre premier ?
C'est un nombre qui n'est divisible que par un et par lui-même.
Voilà, très bien.
Voilà. Et alors, pour vous illustrer le problème mathématique qui se cache là derrière, imaginez, je vous donne les nombres premiers 5 et 7, et vous les multipliez, donc ça donne 35, d'accord ? Maintenant, imaginez que je vous donne 35 sans vous dire que j'ai utilisé 5 et 7. Je vous demande, vous, de me retrouver la factorisation, donc le produit 5 fois 7 égale 35. Mm-hmm. 35, c'est un nombre assez petit, donc c'est assez facile à faire. Maintenant, imaginons que je choisisse deux nombres premiers qui ont 30 chiffres chacun. Je les multiplie et je vous donne le nombre qui en résulte, qui est colossal. Ben voilà, normalement, vous n'y arriverez pas à retrouver les deux nombres que moi j'avais manipulés au départ. Même avec un ordinateur, vous n'y arriverez pas en un temps raisonnable. Il faudrait beaucoup trop de temps et ce ne serait pas efficace, donc ça, c'est assez inutile. Et donc, le problème actuel est le suivant. Étant donné un très grand nombre qui est produit de deux grands nombres premiers, comment réussir à factoriser, à retrouver les deux nombres premiers de base ? Alors, actuellement, il n'y a pas de solution rapide, il n'y a pas de solution efficace. Et heureusement, parce que si jamais il y en avait une, si jamais quelqu'un arrive avec une solution et dit « j'appuie sur un bouton et instantanément j'ai la solution », il aurait la capacité de décrypter tous les systèmes de sécurité.
Et puisqu'il y a quand même des notions de répétition dans les nombres premiers, il n'y a pas, selon vous, professeur Nicolaï, une espèce d'onde qui commence à se dessiner dans les nombres premiers, la cryptologie ?
Ce qui est vraiment très intéressant dans l'arithmétique, c'est que c'est une branche des mathématiques où les énoncés sont extrêmement simples et les solutions extrêmement compliquées et extrêmement ingénieuses. Donc, je n'oserais jamais dire qu'une telle solution ne marchera pas pour traiter le problème. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je n'en ai aucune idée.
On va reparler de ces fameuses ondelettes qui sont la clé d'analyse de certains phénomènes compliqués. On les utilise en fait déjà, ces ondelettes, par exemple, en musique, justement.
En musique, oui, notamment pour compresser les données. Fatalement, bon, imaginez que vous ayez votre musique, vous la décomposez avec les ondelettes, vous avez énormément de coefficients, énormément de valeurs. Donc là, pour stocker ça sur un ordinateur, tout n'a pas un grand intérêt. Écouter le 36e violon de la symphonie de Mozart ne va peut-être pas apparaître à vos oreilles. Et donc là, l'idée, c'est de dire, les petits bruits, les petits coefficients qui ne sont pas audibles, on va tous les mettre à zéro. Donc on va perdre de l'information, mais cette information ne va pas être audible, ou en tout cas, on ne va pas se rendre compte qu'on a perdu de l'information. Et donc, en mettant ces coefficients à zéro, on les perd, et donc on se retrouve avec un nombre de coefficients beaucoup plus petits qui permettent fatalement d'économiser de l'espace de stockage.
Alors, vous nous avez demandé de trouver un petit morceau de musique, c'était celui-ci. Ça sonne bien les mathématiques, hein, parfois.
Dans ce cas-là, oui.
Ça, c'est quand même Mozart, Così fan tutte. Quel est le rapport avec les ondelettes et les mathématiques, professeur ?
Là, c'est qu'on peut. Il y a des gens qui se sont amusés à faire le problème inverse. C'est-à-dire qu'à partir des ondelettes, créer un morceau qui ressemble à s'y méprendre à l'opéra de Mozart. C'est-à-dire, c'est entièrement artificiel. On crée les coefficients, on les somme pour créer un signal qui donne le signal de Mozart. Donc, en général, on a la musique, on la décompose en ondelettes. Ici, on fait des ondelettes et on construit un signal. On fait le chemin inverse.
Donc, on peut refaire du Mozart avec des mathématiques.
Voilà, je pense que le mélomane ne sera pas tout à fait d'accord avec moi. Mais en tout cas, ça s'en approche.
Oui, et le silence qui suit sans doute aussi beaucoup plus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait sonner les mathématiques de cette manière. Nous sommes toujours dans Paraplus B en train de faire la photo, enfin tenter de faire la photo mondiale de l'état de la recherche en mathématiques. Justement, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. L'équivalent, c'est la fameuse médaille Fields. Où se situe la Belgique dans cette compétition ?
Je pense qu'on est sixième.
Étonnamment, on est sixième quand même, oui.
C'est pas mal, hein.
C'est même extraordinaire.
Les premiers, ce sont les Américains, sans trop de surprises. Ensuite, ce sont nos voisins, les Français, suivis des Russes. Et nous, effectivement, donc on serait sixième. Mais puisque vous êtes mathématicien, vous dites qu'en fait, on est les premiers quelque part.
Si on relativise par rapport à la population, c'est sûr que. Vu le nombre, on est à peu près 10 millions, les Français sont 70 millions. Vous multipliez par 7, on obtient 14 médailles Fields, on est parmi les premiers.
Mais voilà, on a le moral. Merci en tout cas. On va essayer de porter un regard lucide à présent sur les mathématiques, parce que c'est vrai qu'on les a fait sonner cet après-midi de manière particulière. On en a parlé avec beaucoup d'humour, en les transformant en concours, en choses comme ça. Il y a quand même des choses qui sont un peu regrettables par rapport aux mathématiques, c'est la séquence. Pourquoi fallait-il pas y aller.
Par A plus B, par A plus B.
Sur la première.
Parce que c'est vrai, professeur Nicolaï et Adrien de Liège, que les mathématiques n'ont pas bonne presse, ou en tout cas pas bonne réputation, malgré tout ce qu'on peut en faire. Et alors, vous m'avez confié une histoire, c'est complètement dingue, on va dire d'un illustre chercheur et même responsable de département de mathématiques qui parlait des mathématiques de manière particulière.
La règle des trois tiers.
La fameuse règle des trois tiers. On va en sourire. C'est quoi cette fameuse règle des trois tiers ?
Donc ben, voilà, il disait que dans un exposé, l'exposé doit pouvoir être décomposé en trois parties. La première partie, tout le monde comprend. La seconde partie, seul le spécialiste la comprend. Et la dernière partie, qui doit être la plus longue, pour bien faire, seule la personne qui parle comprend.
Alors, c'est évidemment très drôle, c'est un trait d'humour, mais quelque part, c'est ce qui a aussi donné un coup assez dommageable aux mathématiques, parce qu'évidemment, ils ont cette réputation de discipline impénétrable, incompréhensible.
Mais je pense que certaines personnes, effectivement, ont pris ça, voilà, pouvoir dire « je fais quelque chose que personne ne comprend », il y a des personnes qui trouvent ça voilà, comme valorisant.
Vous dites aujourd'hui que les mathématiciens ne se comprennent pas entre eux et qu'il est même impossible de se comprendre entre mathématiciens, tellement les mathématiques sont devenues un champ gigantesque de connaissances et de recherches.
Il n'est pas possible de se comprendre. Il faut simplement communiquer. Voilà. Comme Adrien le fait avec ma thèse en 180 secondes. Je ne dis pas qu'on peut exposer son domaine de recherche en 180 secondes, mais simplement, quand on prend le temps, quand on a la volonté de comprendre ce que fait le voisin, c'est faisable. Maintenant, tout comprendre des mathématiques, ça prendra un temps fou. Ça, c'est pas faisable. Mais quand on a une discipline mathématique, dit tiens, j'aimerais bien me perfectionner dans cette branche, ben, c'est tout à fait faisable. On va voir le collègue qui va nous éclairer sur la chose. Je l'ai fait il y a deux semaines. Voilà, on prend une demi-heure de rendez-vous. On se fait écrire les grandes lignes. On se fait recommander les livres à lire. Et puis voilà, on est sur la piste. Donc voilà, c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est que malgré qu'on ait fait des mathématiques depuis plus de 10 ans, on peut continuer à apprendre des choses.
Adrien, pourquoi quand on dit « t'es bon en maths, tu seras ingénieur » et pourquoi on ne dit pas « quand t'es bon en maths, tu seras mathématicien »
Sans doute parce que le prestige de l'ingénieur est là. C'est quelque chose dans notre société, je pense. Si on dit à quelqu'un « ah, tu vas être ingénieur », il va être plus tenté, plus intéressé que si on lui dit « tu vas être mathématicien ». Bon, ça, c'est un phénomène un peu plus sociétal. Mais c'est probablement ce genre de choses qui fait en sorte qu'on a peu d'étudiants et que finalement, il y a peu de gens qui s'intéressent vraiment aux mathématiques et à leurs applications, qui sont pourtant nombreuses, qui sont de plus en plus nombreuses, mais qui restent quand même un peu trop méconnues, malheureusement.
En tout cas, merci à vous deux d'avoir vulgarisé aussi bien les mathématiques pour nous dans Parapluie B aujourd'hui. On a une petite tradition dans Parapluie B, c'est laisser le mot de la fin aux scientifiques que vous êtes. Ce sera pour tout de suite.
Benjamin Leupart.
Par A+B jusqu'à 17h.
Sur la première.
Juste le temps de vous dire que quand Parapluie B ferme son studio le week-end, il se transforme en laboratoire pour tester plein de prototypes, de nouveautés et des choses comme ça. Chaque semaine, on fait un petit appel du pied à tous les chercheurs, les innovateurs, les découvreurs que vous êtes, les scientifiques, pour nous utiliser un petit peu comme des cobayes. Cette semaine, on était ravis de pouvoir tester, par exemple, la fameuse formule Mathèse en 180 secondes. C'est pas un objet qu'on a testé, mais c'est une formulation des sciences qui était vraiment très très séduisante. Merci à vous et bravo encore d'avoir été le lauréat, un des 5 lauréats et prix du public, donc coup de cœur du public composé scientifiques et puis d'étudiants en général. C'était à Liège et il y aura une suite. La finale sera lieu à la Sorbonne, je crois.
D'abord à Namur pour la finale interuniversitaire belge le 28 mai et puis éventuellement donc, la finale mondiale à la Sorbonne à Paris. Le 1er octobre.
Et il y aura combien de places?
Je crois qu'il y a 4 ou 5 places, pas plus.
D'accord. Voilà. Eh ben, on croise les doigts, en tout cas, Adrien. Merci beaucoup. On va vous demander un dernier exercice. C'est le mot de la fin, la bouteille à la mer, le message, le message lancé à propos des mathématiques. C'est quoi votre profession de foi de mathématicien et thésard?
Mais il ne faut pas marginaliser les mathématiciens. On est une science qui est relativement ouverte sur le monde, qui a des applications absolument partout et il faut bien s'en rendre compte. Et donc s'il y a des jeunes étudiants qui sont en secondaire ou encore un peu hésitants sur leurs futures études, il faut qu'ils n'hésitent pas à aller voir par exemple les vidéos de ma thèse en 180 secondes qui seront bientôt en ligne. On est plusieurs mathématiciens donc à vulgariser notre travail. Et voilà, je les encourage à venir un peu voir chez nous.
En tout cas, vous faites beaucoup d'efforts pour vous faire comprendre et la plupart du temps, vous y parvenez. Professeur, votre mot de la fin à vous, c'est quoi?
Je vais prolonger ce qu'a dit Adrien. Les mathématiques, ce n'est pas la science des nombres, comme on pourrait le penser en regardant par le prisme du programme de secondaire. C'est plutôt un ensemble de connaissances résultant de raisonnement. Donc, être mathématicien, c'est une tournure d'esprit. Si on l'a ou si on veut l'acquérir, il n'y a qu'une seule solution, c'est faire des études en mathématiques.
Eh ben, merci messieurs, j'espère qu'on aura donné envie en tout cas aux gens de, d'avoir moins peur peut-être des mathématiques et de se tourner vers elles pour comprendre, analyser le monde qui nous entoure. Merci beaucoup à vous deux, bon retour à l'Université de Liège et bonne suite de travail à vous Adrien sur votre thèse. On se retrouve nous dimanche prochain pour aborder un autre sujet par A plus B, des démonstrations en veux-tu en voilà. La carte blanche sera donnée à d'autres scientifiques. Dans un instant, vous allez retrouver le best-of de C'est presque sérieux avec la belle voix de Catherine Axe. Merci et restez curieux.
La première.